Philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 1er mars 90.
Ressent. les sensations. Tout le monde des sensations me fait découvrir tout le monde du physique. Pour Descartes et le monde, les idées transcendantales me font découvrir l'esprit, substance pensante, la pensée. On voit comment ça peut reposer ça sur une certaine abstraction mathématique. Le schème abstraction mathématique demeure pour Descartes, j'allais dire, l'analogie principale. Les idées mathématiques sont coupées du monde sensible. J'ai un monde mathématique, le monde des possibles. C'est ça le monde des possibles. Les mathématiques sont dans un monde des possibles. Et sont de fait séparées du monde de la contingence, des choses pratiques. J'achète des carottes au marché. C'est du monde sensible et pratique. Les mathématiques n'interviennent que quand je commence à compter. Venant des carottes, c'est une application. Autrement, ce sont des carottes. Je vois leur couleur, sensation. Et je crois très fort, et ça en donne à la preuve, c'est que Descartes essaie de montrer que les voies d'accès vis-à-vis de Dieu, modo géométrico. Pour lui, la connaissance mathématique demeure le prototype de la connaissance humaine. Pourquoi ? Parce que c'est là où la certitude est la plus grande. Si vous cherchez les connaissances du côté de la certitude, vous êtes conduit automatiquement du côté des mathématiques. Aristote avait reconnu. Mais c'est là où Descartes et Aristote se retrouvent. Ils s'embrassent dans le domaine mathématique. Mais la différence, c'est que Descartes demeure dans ce schème mathématique. Aristote dit non. Le point de vue mathématique ne nous fait pas découvrir le jugement d'existence. La réalité telle qu'elle existe. Ou quand vous aurez les formes a priori transcendantales, d'où subjectivité transcendantale. Et puis vous avez l'application de tout cela au monde du Descartes est commandé par le monde mathématique. Kant est impressionné par les physiques contemporaines. C'est très net que des deux côtés, révolution copernicienne et Descartes, le point de vue mathématique. Il y a deux schèmes qui commandent. Cela demeure dans la dualité et ça ne les gêne pas. Parce que la dualité est commandée par l'âme et le corps. Donc, on ressent la dualité. Une dualité néo-platonicienne. C'est très net. C'est le néo-platonisme qui commande Descartes. Oui, un néoplatonisme, attention, hein, passant par les mathématiques, on reste dans la dualité. Et la connaissance physique reste une mensuration. Les idées, c'est inné. les idées que je remonte jusqu'à Dieu. C'est pas par les sensations. Modo geometrico, la démonstration jusqu'à l'existence de Dieu. Kant est plus subtil quand il s'agit de remonter jusqu'à Dieu. Puisque l'idée d'être, c'est une forme transcendante, c'est une forme a priori. Je ne peux pas remonter jusqu'à Dieu par les formes a priori. Alors, quel sera le moment où les formes a priori rejoindront le réel existentiel? Ce sera dans le domaine moral, l'impératif catégorique. Il n'y a qu'à ce moment-là où il y a une possibilité de comprendre comment les formes a priori rejoindront le réel par la conscience que j'ai de Dieu qui me commande. Au fond, c'est Dieu qui fera la synthèse. C'est normal, du reste. Les formes a priori viennent de Dieu. Et le monde physique vient de Dieu. Et c'est Dieu qui fera la synthèse. Vous voyez, un petit peu comme Descartes, c'est grâce à Dieu, c'est par la découverte de Dieu que le monde physique n'est pas purement apparence. Et je considère que le monde physique peut exister et qu'il existe. C'est grâce à l'existence de Dieu. Dieu est garant de la vérité. Et c'est grâce à Dieu que Dieu est la vérité. Et bien, il y a la même chose un peu chez Kant, alors au niveau pratique. Et dans l'hégélianisme, il y aura cet aspect constant de vouloir rejoindre par une subjectivité pure, donc transcendantale, l'individualité pure. Ici, vous êtes en face des individus existants, contingents. Alors, on dira plutôt la contingence. Ici, la nécessité. Entre nécessité et contingence, on ne joue rien. Vous retrouvez la même chose dans Kant. Tout le monde physique, c'est le contingent. Jamais le contingent ne peut me faire comprendre le nécessaire. Ici, je suis en face du nécessaire. Ici, le contingent. Il est sûr que la distinction contingent-nécessaire joue un rôle capital chez Descartes et chez Kant. Or, distinction contingent est nécessaire. C'est une distinction importante, c'est évident. Mais ce n'est pas premier. Au-delà du contingent et du nécessaire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'être. Mais pas pour Descartes. Pourquoi on n'arrive pas à dépasser le nécessaire et le contingent? Parce qu'au fond, on n'aboutit pas à l'être. On reste dans le domaine des idées. On reste dans le domaine des formes a priori. Tandis que chez Hegel, et alors ça il faut le reconnaître, Hegel a une puissance de synthèse que Descartes et Kant n'ont pas. Et il essaiera par tous les moyens de dépasser cette dualité individu, universel, nécessaire, contingent, subjectivité absolue, objectivité absolue. On comprend très bien qu'en face de ces deux philosophes qui apparaissent avec toute leur force, Descartes et Kant, Hegel va essayer, ce qu'il n'aime pas Kant, pas du tout Kant, par le fait même qu'il n'aime pas Descartes. Il y a une continuité entre Descartes et Kant, ça c'est sûr, avec un génie français, un génie allemand, un génie français très universel, européen, de l'Europe du temps de Descartes, qui est si particulière. Il y a l'Europe du Moyen-Âge, il y a l'Europe de Descartes, il y a l'Europe actuelle. Parce que c'est évident que Descartes a un génie assez universel. Mais du côté de l'extension, pas de la pénétration. L'Europe de Leibniz, si vous voulez aussi. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que Hegel, de fait, n'accepte pas cette dualité. De rester dans cette dualité. Il accepte cette dualité comme un point de départ. Mais il faut la synthèse. Découvre pas en pénétration ce qui permettrait le dépassement. Nous nous dirions dans notre langage philosophique, la nécessité est un mode de ce qui est. Le contingent est un mode de ce qui est. L'acte est nécessaire, la puissance est source contingente. Mais au-delà de ces deux modes, il y a l'être. C'est de voir la différence entre la ratio entis et la synthèse hegélienne. Parce que des deux côtés, le génie d'Aristote, le génie d'Hegel, c'est de redécouvrir l'unité. Mais d'un côté, on redécouvre l'unité à la manière du bois, la synthèse. On assimile. Et de l'autre côté, on découvre l'unité par l'au-delà. Pour Aristote, l'unité n'est pas dans l'intelligence, elle est au-delà de l'intelligence. C'est le réel qui mesure l'intelligence. Ce n'est pas la dialectique qui fait l'unité. Parce que la dialectique, elle est intérieure. Et vous voyez la parenté entre Kant et Descartes, la parenté avec le néoplatonisme, c'est que le néoplatonisme, lui aussi, met l'idée comme l'absolu, et donc la subjectivité transcendantale comme absolu. C'est le primat de l'idée. C'est le primat de la subjectivité dans le néoplatonisme. Là, il y a une parenté. Et le néoplatonisme accepte la dualité. La dualité des idées et de la matière. La matière est autre chose. Elle est non-être. Sous lequel Hegel et Aristote se retrouvent. Il y a ce point de vue-là. Et puis il y a le point de vue aussi de la distinction de l'être et du devenir. Les deux grands philosophes du devenir de l'intelligence, c'est Aristote et Hegel. Alors que Kant et Descartes sont dans l'immobilité de l'intelligence. assez vite maintenant, parce que une fois qu'on a dépassé, une fois qu'on a atteint Hegel, on atteint un sommet. Je comprends très bien l'attitude de Monsieur Bourgeois qui dit que après Hegel, il n'y a rien. C'est la décrépitude. Après Hegel, c'est l'athéisme. Étienne Born le dit. Hegel est source de tous les athées. Alors regardons par rapport à la personne, vous allez voir. Ce sont des noms secondaires du reste, forcément. Renouvier, chez Renouvier. Alors on peut intituler ça la personnalité synthèse du soi et du non-soi. Oui, l'idée de synthèse demeure. La personne est une synthèse. La personne est un chez Renouvier, la loi de personnalité est la dernière catégorie. Donc on retrouve bien la même idée. C'est que c'est dans la personne que se doit se faire l'ultime synthèse. Il nous dit ceci, la loi de personnalité qui embrasse toutes les autres, et particulièrement au point de vue de l'homme, elle se présente ainsi. Alors je cite, toute loi étant donné dans une représentation complète et nulle part ailleurs que nous sachions, on peut toujours demander de quel ensemble de phénomènes un rapport quelconque fait partie représentativement. La réponse à cette question est la loi de conscience et de personnalité ou de personnalité. Ou pour parler latin, c'est Renouvier, la thèse in co, co-referente, co-cogitante. Ça, c'est les vieux restes de la scolastique, vous voyez. Très, très curieux. C'est plus fort qu'eux, il faut parler latin. Il faut parler du co, le co de Boès. Ça revient jusque-là. Vous comprenez que si vous ne comprenez pas du tout la scolastique, et que vous lisez Renouvier, mais vous n'y comprenez rien. Ces gens-là avaient quand même certaines traditions, d'un certain patrimoine. Un patrimoine assez particulier, une scolastique décadente. Ils descendaient des théologiens. Hegel est un théologien. Je suis luthérien. C'est un théologien. Parce que sans doute, pour lui, voyez, c'est peut-être ça qu'il y a derrière. Vous voyez, ce dualisme de Descartes, ce dualisme de Kant, il n'est absorbé qu'en Dieu. Dieu est un, il n'est pas Dieu, il n'est pas deux. Que pour Descartes. Parce que Kant et Descartes sont quand même des théologiens laïcisés. Laïcisme commence avec Descartes et Kant. C'est en ce sens-là qu'ils sont anti-néoplatoniciens. Parce que les néoplatoniciens ne sont pas du tout des laïcs. Ce n'est pas la laïcisation. Mais c'est le néoplatonisme qui tend vers la gauche, si j'ose dire. C'est le point de vue de l'ontologisme qui tend vers la gauche. Ça, c'est sûr. Parce que Dieu est l'unique qui possède l'unité. Dès que je suis en dehors de Dieu, il y a la division. Alors, est-ce qu'au fond, Hegel, dans le fond de sa foi, de luthérien, n'a-t-il pas cette conscience profonde que seul Dieu fait l'unité? en dehors de Dieu, on est dans la diaspora. On est dans la multiplicité à cause du péché. Le péché divise. Hein. La parabole de Jésus. Hein. Le semeur et celui qui sème la nuit, la cisanie, le mauvais grain, qui divise. Alors, est-ce que dans Hegel, il n'y a pas cet aspect-là que l'unité profonde n'existe qu'en Dieu, mais dans l'homme, au plus intime de l'homme, et dans le sommet de l'homme, la personne, on doit retrouver cette unité. Et cette unité sera le point de vue justement de la personnalité. C'est par la personne qu'on retrouvera cette unité entre Dieu et l'homme. Mais c'est par la foi en Dieu un que je me redécouvre un. À ce point de vue-là, c'est vrai de dire que tout l'hégélianisme, Hegel le dit, est une preuve ontologique de l'existence de Dieu. Et à ce point de vue-là, on peut dire que Hegel est un théologien. L'homme n'est un dans sa personnalité qu'en rejoignant Dieu, qu'en étant Dieu. Parce que rejoindre Dieu, c'est reconnaître une transcendentalité extérieure à l'homme. Il faut redécouvrir cet aspect transcendantal au plus intime de l'homme. Alors, je continue par rapport à Renouvier. Parlant de la relation en général, les catégories aboutissent à cette relation la plus particulière de toutes, qui est la personnalité. Voyez le relent théologique. Pour saint Thomas, la personne en Dieu, c'est la relation. Dans la très sainte Trinité, c'est la relation subsistante. Et voyez pourquoi. C'est parce que la relation seule, parmi toutes les catégories, n'implique aucune perfection. Je peux donc attribuer au Père la relation de paternité, tout en maintenant la simplicité absolue en Dieu. Je n'ajoute rien en disant que Dieu est Père. Et il demeure absolument simple et un avec le Fils et l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que seule la relation permet de distinguer les personnes divines. Et pour saint Thomas, la personne du Père, c'est une relation subsistante. Alors voyez comme c'est curieux de retrouver chez Renouvier, qui n'est pas un théologien, partant de la relation en général, les catégories aboutissent, c'est de lui, hein, aboutissent à cette relation la plus particulière de toutes, qui est la personnalité. Ceci, c'est le patrimoine des théologiens de saint Thomas. Vous retrouvez dans Renouvier. Et vous retrouvez le coup. Elles y aboutissent après l'avoir constamment supposé en cela qu'il faut à l'analyse un analyste, à la science un savant. De toute notion, de tout jugement, de tout objet représenté dans l'espace ou dans le temps, on peut demander en qui il se manifeste. Enfin, la matière de la connaissance est marquée du sceau du connaître sous toutes ses formes, c'est-à-dire modelée sur les lois de la personne, en qui seules des représentations sont données. Et ce mélange extraordinaire du cogito de Descartes, cogito pris du côté de la représentation. Toute connaissance implique une représentation. Et toute représentation est une relation. Mais la relation comme telle ne peut se comprendre qu'à partir de la personne qui est la personnalité, qui est la relation par excellence. Ce qui fait l'unité dernière de toutes mes connaissances, c'est ma personne. C'est le quo referente. C'est le quo cogitante. Ce par quoi je pense, c'est la personne. C'est le suppos qui est une relation. C'est très très curieux et c'est très intéressant de voir les dernières influences scolastiques. La personnalité, comme toutes les autres catégories précédentes, se détermine à partir de deux formes opposées. En l'occurrence, le soi, thèse, et le non-soi, antithèse. La dialectique hegelienne, qui ne sont en eux-mêmes donnés que par leur rapport et leur synthèse. La personnalité, dit Renouvier, se détermine par la synthèse d'une limite et d'un intervalle correspondant. La limite est le soi, une sphère, une série de phénomènes posé comme être, comme acte, comme état, à la manière de la thèse commune des catégories du devenir, de causalité, de finalité. L'intervalle, abstraction faite de toute limitation par le soi et le non-soi. L'ensemble, indéterminé, indéfini, donc vous voyez l'infini qui réapparaît, de tous les phénomènes autres ou extérieurs, mais liés selon toutes les catégories avec les premiers, touchant lesquels ils se déterminent. La synthèse du soi et du non-soi est la conscience, la personne. Donc vous voyez, j'allais dire, l'application très curieuse de la dialectique hegélienne, de la synthèse hegélienne, à quelque chose de psychologique, le soi et le non-soi. Le soi et la limite. Nous avions vu, si vous vous souvenez, parce que c'est très curieux qu'on retrouve. Première idée. Ce par quoi je fais l'unité de toutes mes connaissances. Quelque chose de juste. C'est évident que c'est la personne qui fait l'unité de toutes mes connaissances. Je vous fais un cours maintenant, je ferai un cours tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait l'unité? C'est pas ce que je vous dis, puisque je vous dis autre chose. C'est la personne. Le co que j'ai dans le tête. C'est très gros, hein. C'est le suppos. Des scolastiques, c'est la personne, le cours que j'ai tenté, c'est le support de toutes mes connaissances, c'est le cours que j'ai tenté. Alors, poussons un peu plus, il y a le soi, mais le soi est limité. Le soi, c'est pas le support. Hein. Le soi, c'est le support au niveau psychologique. Le soi, le moi. Alors, il est limité, donc il est fini. Comment arriver à l'infini? Il y a le non-soi, l'infini. La négation de toutes les déterminations et de toutes les limites, l'infini, qui est le non-soi. La synthèse des deux, la personne. Je ne peux pas identifier la personne et mon moi. Parce que j'ai conscience de mon moi actuellement. Mais mon moi ce soir, mon soi ce soir, il n'est pas le même que celui du matin. Entre deux, il y a le midi, il y a le non-soi. Il n'est ni le matin ni le soir. Donc il est non-soi. Donc il est l'infini. Et là, j'ai la personne. simplicité enfantine. C'est une dégringolade de l'hégélianisme. Mais c'est une application. On voit très bien comment on arrive à ça. C'est le psychologisme qui s'est réintroduit. Le psychologisme français qui s'est réintroduit là. On peut dire que Renouvier, vous voyez, c'est une espèce d'application d'Hegel à la psychologie. Ce qui est anti-hegélien au possible. Et puis, le point de vue de la scolastique dans ce qu'il reste, le co référente, le co cogitante. Avec ça, vous savez si bien ce que c'est que la personne pour Renouvier. La conscience, la personne. Évidemment que la synthèse du soi et du non-soi, c'est la conscience. On peut donc dire que la conscience est le soi du non-soi. Et pour ainsi dire, c'est lui qui dit ça, c'est pas moi. Le soi du non-soi. Recherchez bien le soi du non-soi. Vous voyez, dans le non-soi, il y a encore le soi. C'est évident parce que c'est le non-soi. Et donc la personne, c'est le soi du non-soi. Vous amusez, quoi. C'est un petit rébus. Mais c'est dit sérieusement, c'est ça qui est mieux. Parce qu'il s'est dit avec humour. Je comprends très bien. Je joue. Je dis le matin, le soir, entre deux et le midi. C'est très curieux. Des gens sérieux. Et ça continue, ce qui est mieux. Le soi du non-soi est pour ainsi dire l'un de ce multiple, un tout. Renouvier ajoute, reprenant successivement les catégories précédentes, c'est de lui, elle est le point limite et l'instant limite de cet espace et de ce temps, une étendue, une durée. La différence de ce genre, une espèce, puis un individu, l'être de ce non-être, un devenir, l'acte de cette puissance, une force, l'état de cette tendance, une passion, et pour remonter à la première et à la plus générale des catégories, la relation, l'autre de ce même, indéterminé. C'est dramatique. On pourrait jouer ça, hein. Je vois tout à fait le jeu de ça. Un frère un peu rigolo faisant ça. Mais la personne. Et là, il se présente. Il joue. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est de voir que la relation s'identifie à la personne. Il faut prendre très sérieusement Renouvier, il ne faut pas le blaguer. Nous nous blaguons ici parce que c'est intéressant. Ceci, c'est dans Renouvier, essai de critique générale. Premier essai, traité de logique générale, de logique formelle. La personne, chez Kierkegaard, alors ça c'est mieux. Kierkegaard est quand même. Kierkegaard est très sympathique. Moi j'aime beaucoup Kierkegaard. Je l'aime bien, c'est pas très fort, mais c'est quand même un homme très sincère. Kierkegaard, hein, c'est comme ça qu'on le prononce. Si on le prononce à la suédoise. En français on dit Kierkegaard, mais c'est en réalité Kierkegaard. Ça fait mieux, ça fait beaucoup mieux, ça fait un petit accent. La personne et la conscience se rapportant à elle-même dans son rapport à Dieu. Alors Kierkegaard est très anti-hégélien. Très anti-hégélien. Pourquoi ? Parce que c'est un croyant. C'est un croyant avec force. Vous voyez, alors ça, c'est ça qui serait intéressant. Deux luthériens qui se battent. Okay, il y a des chrétiens et des catholiques qui se battent. Hein. Point de vue théologique. mes amis. Ça. Là. Pour Kierkegaard, c'est la conscience à proprement parler qui constitue la personne. Ceci dans son journal.
Plus il y a de conscience,
plus il y a de moi. Car plus elle croit, plus croît la volonté. Plus elle croit croître, plus elle croit, plus croît la volonté. Et plus il y a de volonté, plus il y a de moi. Chez un homme sans vouloir,